Les gens passent leur vie à se préparer pour les grandes occasions. On organise des gueuletons pour les étapes clés, la soirée des 18 ans, les fiançailles, le mariage, le baptême. On fait la fête, on acclame, on applaudit et on s'efforce de célébrer les moments importants parce que, eh bien, ils sont importants. De la même façon, on se blinde contre les grandes épreuves. Le quartier qui fait bloc autour des survivants d'un incendie domestique meurtrier, la famille qui se rassemble pour les funérailles du jeune père de famille fauché par un cancer, la meilleure amie qui vient passer avec vous votre premier week-end de maman tout juste divorcée. Nous voyons venir les grands événements et nous nous apprêtons à tenir le rôle principal dans notre psychodrame personnel. Ainsi, nous nous sentons plus disposés à accepter les choses, plus forts. Regardez-moi, j'ai réussi. Je suis convaincue que ce sont ces moments-ci qui, au bout du compte, nous construisent ou nous brisent. Comme une vague qui vient lécher jour après jour le même rocher, érode la pierre et dessine les contours du rivage, ce sont les petits détails ordinaires de nos existences qui recèlent le vrai pouvoir et donc tout le danger invisible. Les choses que nous faisons ou que nous ne faisons pas dans notre vie de tous les jours, sans même comprendre les conséquences à long terme d'actes aussi insignifiants. Par exemple, j'ai signé la fin du monde tel que je le connaissais le samedi 30 août, le jour où j'ai acheté à Jason un iPod pour son anniversaire. Lui et moi faisions des courses ensemble. Il fallait des vêtements pour l'école, je voulais des fournitures pour finir d'aménager ma première salle de classe. Nous sommes entrés dans le Target, nous avons vu les iPods et j'ai tout de suite pensé à Jason. Il adorait écouter de la musique et il s'était récemment mis au jogging. Un iPod lui permettrait de conjuguer deux de ses activités préférées. Nous avons rapporté en douce le gadget musical dernier cri de la taille d'une carte de crédit en le cachant parmi mes fournitures pour le collège. Plus tard, pendant que Ree et lui chahutaient dans le séjour, j'ai planqué l'iPod dans le tiroir de la cuisine, sous la pile de maniques, pour qu'il soit plus près de l'ordinateur. Ree et moi avions déjà tout manigancé dans la voiture. Comment nous préparerions clandestinement l'iPod pour Jason en téléchargeant des tonnes de rock'n'roll en lieu et place de sa musique classique adorée? Grâce au film Souris City, Ree connaissait bien les chansons de Billy Idol et Fatboy Slim. Le dimanche matin, quand Jason, finalement rattrapé par ses insomnies, dormait jusqu'à plus de 9 heures, la nouvelle méthode favorite de Ree pour réveiller son père consistait à faire résonner « Dancing with myself » à plein tube dans toute la maison. Parce qu'il n'y a rien de tel qu'un rocker britannique pour faire sortir de son lit en moins de deux un admirateur de George Winston. Nous étions toutes contentes de nous. Le samedi soir était notre soirée en famille, donc nous avons patienté. Le dimanche, vers 17h, Jason a annoncé qu'il devait aller au bureau. Il fallait qu'il vérifie certaines sources, qu'il rédige le premier jet d'une chronique sur les pubs irlandais de Southie, etc. Lui et moi l'avons, pour ainsi dire, poussé dehors. Son anniversaire tombait le mardi, nous voulions être prêtes. J'ai commencé par allumer l'ordinateur familial. Mr. Smith est monté d'un bond sur la table pour surveiller et s'est installé près de l'écran chaud, d'où il pouvait m'observer avec suffisance par les fentes dorées de ses yeux. Comme la plupart des gadgets électroniques, l'iPod exigeait l'installation d'un logiciel spécial. Je suis loin d'être aussi douée que Jason en informatique, mais la plupart des téléchargements sont relativement inratables, même pour moi. Et de fait, l'assistant d'installation est apparu et je me suis retrouvée à cliquer à tout va « j'accepte »,« oui » et « suivant » chaque fois qu'une boîte de dialogue s'ouvrait. « Tu vois, je suis plus maligne que tu ne crois. » Ai-je fait remarquer à Mr. Smith qui m'a répondu par un bâillement. Ree était déjà en train de trier sa collection de CD. Plus elle y pensait, plus elle était certaine que Jason aurait besoin d'un peu de musique Disney pour aller avec Billy Idol. Peut-être qu'il courrait plus vite en écoutant le Roi Lion chanté par Elton John, sans oublier le travail appliqué de Phil Collins sur Tarzan. L'ordinateur a annoncé que le logiciel iTunes était opérationnel. Ree est accouru avec une poignée de CD. Après avoir lu quelques instructions, je lui ai montré comment nous pouvions insérer ces CD dans le lecteur de l'ordinateur pour que toute la musique soit copiée sur l'iPod de papa. Une telle magie l'a laissé sans voix. Ensuite, il nous a bien fallu aller sur le magasin de musique en ligne pour télécharger quelques classiques de Led Zeppelin et des Rolling Stones. « Sympathy for the Devil » a toujours été une de mes chansons préférées. Le temps filait et il était déjà 20h, l'heure de coucher Ree. J'ai remis l'iPod dans sa cachette sous les maniques. Ree a rassemblé en toute hâte ses CD éparpillés et les a rangés sur la tablette. Ensuite, premier étage pour un petit bain, les dents, pipi, deux histoires, une chanson, une gratouille aux oreilles du chat pour lui dire bonsoir, et enfin le calme. Je suis retournée dans la cuisine, je me suis fait un thé. Le lendemain, c'était la fête du travail, autant dire le dernier jour des grandes vacances pour Rui et moi. Ensuite commencerait la routine hebdomadaire, déposer Rui à la maternelle et aller au collège. Jason la reprendrait à 1h de l'après-midi et il faudrait que je sois de retour à la maison à 5 pour qu'il parte au travail. Beaucoup de va-et-vient. Mon mari et moi allions devenir deux navires qui se croisaient dans la nuit. J'étais anxieuse, excitée, effrayée. J'avais voulu un travail, quelque chose à moi. J'avais été la première surprise de choisir l'enseignement, mais l'année précédente m'avait plu. Les enfants me respectaient et s'imprégnaient de connaissances, mais aussi de mots gentils. J'aimais ce moment où quelque chose que j'avais fait amenait un sourire ravi aux lèvres de toute une classe de préados. J'aimais que 25 gamins m'appellent « Madame Jones, Madame Jones ». Sans doute parce que ce n'était pas le nom de ma mère et que donc cette Madame Jones avait l'air d'une personne éminemment compétente et respectable. Devant une classe, je me sentais intelligente et aux commandes. Mon enfance s'évanouissait et dans les yeux des enfants, je voyais l'adulte que j'avais envie d'être. Patiente, cultivée, inventive, ma fille m'adorait, mes élèves m'appréciaient. Quant à mon mari, je n'ai jamais été sûre avec Jason. Il avait besoin de moi, il respectait mon désir d'avoir un travail, même si je savais qu'il aurait préféré que je reste à la maison avec Rui. Il m'avait encouragée à reprendre mes études, même si ça avait été difficile pour toute la famille. Je lui avais expliqué que j'avais besoin de quelque chose qui soit bien à moi et il avait rédigé sur le champ un chèque pour l'université en ligne de mon choix. Il me laissait libre. Il se fiait à mes décisions, il se montrait gentil. C'était un homme bien. Me suis-je encore une fois répété, comme souvent le soir lorsque les ombres s'allongeaient et que je me sentais de nouveau seule. Bon, notre vie conjugale était dénuée de rapports sexuels. Il n'y a pas de mariage parfait, n'est-ce pas? C'était ça, être adulte. Comprendre que les rêves sucrés qu'on faisait dans son enfance n'étaient pas destinés à se réaliser. On fait des concessions. On se sacrifie pour sa famille. On fait ce qu'il est bon de faire, même si ce n'est pas l'idéal. Et on se réjouit de toutes ces soirées où l'on est allé se coucher sans avoir dans le nez cette odeur écœurante de rose fanée. Penser à Jason m'a rappelé que lui et moi devions confectionner son gâteau d'anniversaire le lendemain matin. Peut-être que je devrais faire le paquet cadeau maintenant, pendant que Jason était encore parti. Puis mon regard est tombé sur l'ordinateur et je me suis aperçue de la faille de notre plan. Jason se servait de l'ordinateur toutes les nuits. Ce qui signifiait que ce soir, quand il rentrerait du bureau et qu'il l'allumerait, la première chose qu'il remarquerait serait sans doute la nouvelle icône iTunes au milieu de la barre des tâches. C'en était fini de notre surprise. Je me suis assise devant l'ordinateur en cherchant des solutions. Je pouvais désinstaller le programme. Nous avions déjà téléchargé nos chansons préférées sur l'iPod lui-même, donc effacer temporairement le logiciel ne devrait rien changer. Ou alors... Je me souvenais vaguement qu'on pouvait supprimer des éléments dans le bureau en les déplaçant vers la corbeille, mais que l'élément restait dans la corbeille jusqu'à ce qu'on donne officiellement l'ordre de la vider. Dans ce cas, je pouvais peut-être traîner l'icône iTunes jusqu'à la corbeille, hors de la vue de Jason, et la laisser planquer là, le tour serait joué. Avant de m'emballer, j'ai décidé de tester ma théorie sur un vieux document pédagogique. J'ai trouvé le fichier, je l'ai sélectionné et transféré dans la corbeille. Ensuite, j'ai double-cliqué sur l'icône de la corbeille pour voir ce qui s'était passé. La corbeille s'est ouverte et, effectivement, mon document pédagogique s'y trouvait. De même qu'un autre fichier intitulé « Photo 1 ». Alors j'ai cliqué dessus. L'image granuleuse en noir et blanc a envahi l'écran. Et je me suis mordu le poing pour que ma fille endormie ne m'entende pas hurler. Quelques 7 kilomètres séparaient le collège de South Boston du domicile de Jason et Sandra Jones, soit environ 8 minutes de voiture. Cette faible distance était parfaite lorsque c'était tous les jours la course pour déposer ou reprendre Rui au point A, tandis que Sandra ou Jason se hâtaient d'arriver au point B. Mais aujourd'hui, Jason faisait défiler les rues dans sa tête, cramponné à deux mains au volant, en se disant que 8 minutes, c'était trop court. Il ne pouvait pas se calmer en 8 minutes. Il ne pouvait pas comprendre ce qu'impliquait l'existence d'Ethan Hastings en 8 minutes. Il ne pouvait pas se remettre du sinistre avertissement du commandant Didi Warren au sujet de sa fille en 8 minutes. Il ne pouvait pas se préparer à ce qui était sur le point de se produire en seulement 8 minutes. Lui était la dernière personne à avoir vu sa mère en vie mercredi soir. La police le savait, lui-même le savait, et par définition, quelqu'un d'autre le savait sans doute. Celui qui avait fait du mal à sa femme, et qui pourrait revenir faire du mal à lui. « Je suis fatiguée, papa », geignait celle-ci à l'arrière en se frottant les yeux. « Je veux rentrer à la maison. » Même Mr. Smith avait quitté sa position alanguie pour s'asseoir et regarder Jason d'un air interrogateur. Il voulait son dîner, certainement, sans parler d'eau fraîche et d'une litière. « On rentre à la maison, papa. Je veux rentrer, papa. » « Je sais, je sais. » Il n'avait pas envie. Il songea à les emmener dîner au restaurant, dormir dans un petit motel, voir pourquoi pas faire le plein d'essence et filer vers le Canada. Mais à l'époque des alertes enlèvement, fuir ne s'improvisait pas, surtout avec une petite fille de 4 ans et un chat orange. « Le Canada, » rumina-t-il. Il aurait déjà de la chance d'arriver jusqu'à la frontière du Massachusetts. Lui voulait rentrer à la maison et c'était sans doute encore l'endroit le plus sûr. Il y avait des portes métalliques, des fenêtres renforcées. Un homme averti en vaut deux. Peut-être bien qu'il n'avait pas su tout ce qui se passait dans la vie de sa femme, qu'il n'avait pas pressenti le danger, mais maintenant, il faisait attention. Personne ne toucherait un cheveu de sa fille. Du moins, c'était ce qu'il se disait. Évidemment, rentrer à la maison supposait d'affronter une maison vide où Sandy ne serait pas là pour les accueillir gaiement, et pire encore, de braver les médias qui faisaient sans aucun doute le siège devant sa maison. « Comment avez-vous tué votre femme, Monsieur Jones ? Couteau, pistolet, garrot ? J'imagine que ça a dû être facile pour vous avec votre expérience. » « Il lui faudrait un porte-parole, se dit-il distraitement. » C'était comme ça que ça marchait maintenant, non ? Victime d'un crime, vous engagez tout un entourage à votre solde, un avocat pour défendre vos intérêts, un porte-parole qui s'exprime au nom de la famille, et cela va de soi, un agent qui s'occupe de négocier les futurs contrats pour l'édition et le cinéma, le droit à la vie privée, la solitude nécessaire pour se rétablir et faire son deuil. Plus personne n'en avait rien à foutre. Votre fille enceinte était enlevée et assassinée, votre épouse bien-aimée était tuée dans le métro, le cadavre de votre petite amie venait d'être retrouvé en morceaux dans une valise, aussitôt votre vie devenait la propriété des chaînes d'information. Oubliez l'organisation des obsèques, il fallait se montrer chez Larry King. Oubliez l'idée d'expliquer à votre enfant que maman ne rentrera plus à la maison, il fallait aller s'asseoir sur le canapé d'Oprah. Le crime était synonyme de célébrité, que vous le vouliez ou non. Il était en colère. Une colère soudaine, violente. Ses doigts avaient blanchi sur le volant et il roulait trop vite, bien au-dessus de la limite. Il ne voulait pas de cette vie. Et il ne voulait pas être terrorisé à ce point pour sa fille unique. Il se força à prendre une grande inspiration, puis à expirer lentement, à lever le pied, à se redresser, repousser cette idée, l'enfermer à double tour, lâcher prise, et ensuite sourire parce que c'était la caméra cachée. Il tourna dans sa rue. Comme de bien entendu, 4 véhicules des médias se pressaient par choc contre par choc en face de sa maison. La police était là aussi. La voiture de patrouille garée juste devant chez lui, 2 agents en tenue sur le trottoir, les mains sur les hanches, pour surveiller la petite troupe de reporters en costume chic et de caméramen en vêtements miteux. Les chaînes locales. L'affaire n'avait pas encore été catapultée à la une des médias nationaux. Attendez qu'ils entendent parler d'Ethan Hastings, ça serait radical. Lui ouvrait de grands yeux sur la banquette arrière. « Il y a une fête, papa ? » demanda-t-elle tout excitée. « Ils sont peut-être contents qu'on ait retrouvé Mr. Smith. » Il ralentit pour tourner dans l'allée et la première volée de flash crépita à sa fenêtre. Il s'engagea dans l'allée, gara le break. Les médias ne pouvaient pas entrer dans une propriété privée, donc il avait tout son temps pour défaire sa ceinture, s'occuper de sa fille, trouver comment s'y prendre avec Mr. Smith. Marie est pleurée. Ses caméras avaient des téléobjectifs. Il porterait Mr. Smith jusqu'à la maison en tenant lui par la main. En voilà un joli tableau pour la photo. Le mari couvert de bleu et de pansements qui agrippait d'une main un joli minet orange et de l'autre une magnifique petite fille. Ouais, aucun doute qu'il allait recevoir du courrier d'admiratrice. Il se sentait à nouveau vide. Ni furieux, ni triste, ni en colère, ni quoi que ce soit. Il avait retrouvé l'état second. Mr. Smith, debout sur les joncs de Jason, observait l'agitation par la fenêtre, les oreilles dressées, la queue agitée de mouvements nerveux. À l'arrière, Rui avait déjà détaché sa ceinture et regardait Jason d'un air interrogateur. « Tu peux sortir de ce côté-là, chérie ?» demanda-t-il d'une voix posée. Elle répondit oui sans quitter des yeux les inconnus attroupés sur le trottoir. « Papa ?»« Ce n'est rien, chérie, ce sont des journalistes. C'est leur travail de poser des questions. Un peu comme c'est mon travail de poser des questions, sauf que j'écris des articles dans un journal alors que ces reporters parlent à la télé. » Elle le regarda à nouveau et l'inquiétude marqua encore davantage ses traits tirés. Il se retourna sur le siège conducteur pour lui toucher la main. « Ils sont obligés de rester sur le trottoir, chérie. C'est la loi. Donc ils ne peuvent pas venir dans notre maison. Mais quand on va descendre de voiture, ça va faire du bruit. Ils vont se mettre à poser plein de questions bizarres tout en même temps et tiens-toi bien, ils ne lèvent pas le doigt. » La remarque attira l'attention de Rui. « Ils ne lèvent pas le doigt ?»« Non. Ils parlent tous en même temps, ils n'attendent pas leur tour, ils ne disent pas « excusez-moi », rien. » Rui cligna des yeux. « Ça ne plairait pas, Madame Suzy, » dit-elle avec autorité. « Je suis bien d'accord. Et quand on sortira de la voiture, tu verras pourquoi c'est important de lever le doigt à l'école, parce que sinon... » Il montra la foule bruyante sur le trottoir et Rui poussa un soupir d'exaspération. Sa nervosité avait disparu. Elle était maintenant prête à descendre de voiture, ne serait-ce que pour montrer sa désapprobation à une bande d'adultes mal élevés. Jason aussi se sentait mieux. La vérité, c'était que sa fille en savait plus long que ses charognards dehors et qu'il pouvait se raccrocher à ça. Il coinça Mr. Smith sous son bras gauche et ouvrit la portière conducteur. La première question fusa dans le jardin et les journalistes se déchaînèrent. « Jason, Jason, où est Madame Jones? Avez-vous de nouvelles informations sur l'endroit où elle se trouve ?» Est-il exact que la police a interrogé votre fille de 4 ans ce matin? Comment va la petite Rhee? Est-ce qu'elle réclame sa mère? Êtes-vous la dernière personne à avoir vu Madame Jones en vie? Qu'avez-vous à répondre aux rumeurs selon lesquelles vous seriez considéré comme un suspect dans cette affaire? Jason ferma sa portière, ouvrit celle de Rhee. La tête baissée, le chat coincé contre lui, il tendit la main à Rhee. Sa fille descendit vaillamment de l'arrière de la voiture. Elle regarda droit vers les journalistes et Jason entendit une demi-douzaine d'appareils photos se déclencher dans un bel ensemble. « La photo qui ferait vendre », réalisa-t-il distraitement. Sa petite fille, sa belle et brave petite fille, venait de lui épargner de voir son visage à lui diffusé au journal de 17h. « Tu as raison, papa », confirma Rui en levant les yeux vers lui. « Il n'aurait jamais le prix de bonne manière. » Alors il sourit, et sentit sa poitrine se gonfler d'orgueil en prenant sa fille par la main pour tourner le dos aux journalistes braillards et gagner le refuge de leur perron. Ils traversèrent le jardin. Mr. Smith se tortillait. Rui marchait d'un pas assuré. Ils gravirent les marches et Jason dut lâcher la main de Rui pour se concentrer sur le chat qui paniquait. « Monsieur Jones, Monsieur Jones, avez-vous organisé des battues pour retrouver Sandy? Y aura-t-il une veillée à la bougie pour votre femme ?» Est-il exact que le sac à main de Sandra a été retrouvé sur le bar de la cuisine? Confirmez-vous qu'Alan Derovitz sera votre avocat, Monsieur Jones. Les clés entre les doigts, Jason se débattait comme il pouvait avec Mr. Smith tout en cherchant la bonne. Rentrez, rentrez. Calme et maîtrise de soi. Quels ont été les derniers mots de Madame Jones? Puis, juste à côté de lui, le craquement inattendu d'une planche. Jason releva brusquement la tête. L'homme sortit de l'ombre au bout de la terrasse. Immédiatement, Jason s'interposa entre sa fille et lui, armé d'un chat dans une main et d'un trousseau de clés dans l'autre. L'homme fit 3 pas vers eux, vêtu d'un costume de lin vermante, un chapeau beige fatigué à la main. Des cheveux prodigieusement blancs couronnaient un visage très hâlé. Il arborait un large sourire et Jason faillit lâcher ce satané chat. L'homme aux cheveux blancs ouvrit les bras, adressa un grand sourire à Rui et s'écria joyeusement « Bonjour, boucle d'or. Viens voir grand-papa. »